Picasso disait, quand je n'ai plus de rouge, je mets du bleu. Ou l'inverse peut-être, peu importe. En sachant que le rouge est une couleur chaude et que le bleu est une couleur froide. Donc généralement, on va utiliser une couleur en fonction de sa tonalité, soit rouge, soit chaude, soit froide, et on ne va pas les mettre n'importe où. Mais moi, je suis un peu comme Picasso. Toutes les couleurs sont bonnes, et toutes les couleurs sont bonnes à mélanger entre elles.
Franck Dumouya. Il est artiste peintre, professeur de dessin, masseur et thérapeute. J'ai choisi de faire cette émission en deux parties, pour vous faire découvrir dans un premier temps sa création artistique, puis son cheminement intérieur, suite à une expérience marquante qu'il vécut à l'âge de 29 ans et qui le transforma profondément.
Ma peinture est très colorée parce que j'aime toutes les couleurs. Et mon plus grand plaisir dans la peinture, c'est pas trop le motif en lui-même, c'est pas trop le dessin du début, mais c'est de plonger mon pinceau dans de la couleur et de ramener cette peinture colorée sur la toile blanche. Et là, tout d'un coup, je vois la création. Je vois comme le premier mouvement de la vie qui débute. Mais que ça soit le jaune, le vert, le rouge, le bleu, le violet, peu importe la couleur me fait vivre. Et quand je pose de la couleur, j'ai l'impression que j'y dépose de la vie sur cette toile blanche. Et je ne respecte aucune règle. C'est simplement en fonction de mon ressenti, de mon intuition. Je me laisse transporter dans ce courant de la couleur et je me sens vivant.
C'est ce que j'allais demander, c'est un prolongement de la vie qu'il y a en toi, le fait de poser des couleurs sur une toile blanche.
C'est tout à fait ça. C'est un prolongement de vie. C'est-à-dire que je ne suis pas que Franck, je suis aussi cette couleur. C'est ça qui est formidable. Je ne suis pas une entité simple qui reste dans cette incarnation. Je suis bien plus complexe que ça et le fait de poser la couleur me montre que je suis autre chose. Et là, nous sommes face à un de mes tableaux et je le vois et j'en suis émerveillé. Et pas forcément de ce que j'ai fait. Je suis émerveillé que la couleur posée sur ce tableau renvoie quelque chose qui m'émerveille à nouveau. Voilà. C'est-à-dire que j'ai posé de la couleur et cette couleur me dit « Mais regarde-moi, Franck, admire-moi. » Et je suis comme un enfant devant un gâteau ou un paquet de bonbons. J'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans cette couleur et de reprendre un pinceau et de remettre de la couleur à nouveau.
Moi, j'ai envie qu'on décrive le tableau qu'on a devant nous pour les auditeurs. Est-ce que tu peux décrire ton tableau un petit peu dans les grandes lignes? Je t'aiderai.
Alors, ce tableau, à la base, c'était une forêt. J'aime beaucoup dessiner, peindre les forêts. Et je me suis rendu compte que dans ce tableau, en fait, en peignant cette forêt, je suis rentré dans une certaine routine à me dire, tiens, j'aime bien peindre les forêts, je vais faire une forêt. Et il n'y a plus ce mouvement naissant de la vie, mais il y a plutôt ce côté... Le terme routine est peut-être un peu fort, mais le côté « allez, t'aimes bien faire ça, vas-y, refais ça ». Et je regardais cette forêt, et je n'en étais pas totalement satisfait.
C'est la forêt qu'on voit en arrière-plan.
Exactement, c'est celle-ci. Lorsque je n'étais pas content de cette forêt, je ne savais plus trop quoi en faire de ce tableau. Et là, j'ai vécu une expérience qui s'appelle la grippe, et elle était assez costaud, donc pendant un mois, je n'ai pas peint. À la fin de cette expérience grippale, je suis revenu vers le tableau, j'ai dit, J'avais envie de mettre des humains dessus. Alors j'ai mis une femme, un homme et un enfant. Et puis après, je me suis dit, mais je vais mettre des oiseaux. Et après, j'ai mis des fleurs. Voilà. Mais tout ça, ça vient au fur et à mesure.
C'est la vie à profusion.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Et on sent une espèce de joie aussi dans les personnages. Il y en a un qui joue de la flûte, une femme qui tient une espèce de roue, de tambourin. On sent une connexion entre eux et la nature. En tout cas, c'est ce que je ressens, moi. C'est très fleuri aussi. Le premier plan est très fleuri, très dense. Moi, ce que je ressens dans les peintures que tu fais, ça touche différents univers. Il y a un univers latino-américain pour moi. Mais c'est peut-être lié aussi aux couleurs, à la nature qui est très, très foisonnante. Un côté un peu Inde, les arbres qui ont sur leur tronc des motifs, un peu de teinture indienne. Enfin, il y a aussi un côté aborigène dans ces peintures. Donc il y a une réelle richesse multiculturelle, alors que tu n'as peut-être pas toutes ces origines.
Ah, je n'en ai aucune. Je suis né en France. Je quitte rarement la France. Je ne suis jamais né en Inde. Quelles sont tes autres cultures que tu m'as dit ? Aborigènes, Amérique latine. Je n'y suis jamais allé. Alors c'est assez étonnant parce qu'une fois je faisais une exposition à la Bastille, au Grand Marché de l'Art Contemporain, et il y a l'un des visiteurs qui vient vers l'un de mes tableaux, qui pointe le tableau du doigt comme ça, qui dit « Ayahuasca ». Ayahuasca, c'est une plante que prennent certains chamans, justement au Pérou, enfin au Pérou ou autre, au Mexique. Et c'est une plante qui nous fait voyager à l'intérieur de nous-mêmes. Je n'ai jamais pris cette plante. Et il me dit, non, c'est pas possible. Pour peindre ça, t'es obligé d'avoir pris de l'ayahuasca. Et je dis non, voilà. Donc voilà, ça rejoint ce que tu viens de dire. Mais je n'ai pas du tout cette culture-là. C'est simplement que ça me vient comme ça, tout naturellement. Et ça se pose sur la toile. Et j'aime beaucoup.
Je me souviens que tu avais dit dans une interview, je crois que c'était avec Jean-Claude Carton, tu avais dit « J'ai toujours eu très peur de peindre. Pour moi, la peinture était tellement un art élevé que je n'osais pas m'y approcher. »
Ça, c'est tout à fait juste. Moi, j'ai commencé par faire de la bande dessinée. Ça m'était plus facile, c'est ce qui vraiment me plaisait. Et quand je voyais les peintures, je me disais, mais ça, c'est quelque chose... C'est comme, je ne sais pas si l'image est juste, mais c'est peut-être comme écrire une chanson, puis se dire, je vais me lancer dans un opéra. Et faire la bande dessinée, c'est énormément de travail. Mais la peinture, ça me paraissait être quelque chose d'inaccessible. Mais sûrement parce que je la mettais sur un piédestal. Et je crois, parce qu'il y a quand même des grands maîtres depuis des siècles et des siècles qui ont porté la peinture à des sommets très très hauts. Et je me disais, mais waouh, oh là 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 là, c'est incroyable, que jamais j'arriverai à pouvoir produire ça. Et en fait, j'étais pas prêt à l'époque pour peindre. Il a fallu, parce que peut-être que je me connaissais pas assez, et le fait que je me connaisse mieux, que je prenne confiance en moi, à un moment donné, la peinture n'a plus été ce mont Everest à franchir, mais c'est simplement une compagne qui m'ouvrait les bras, qui me disait, mais Franck, viens faire l'amour avec moi. Soyons amants tous les deux. Alors j'ai testé cette aventure avec la peinture, et je ne me suis pas mis de barrière, je ne me suis pas mis de but. Simplement, comme je disais tout à l'heure, voilà, je trempe le pinceau, et... Je badigeonne un peu la toile. Et après, je vois les couleurs quand elles se marient entre elles. Je vois ce que ça donne. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me fait plaisir? Et quand ça me fait plaisir, eh ben waouh, c'est gagné pour moi.
On peut d'autant plus dire aussi que c'est que tu n'étais pas débutant, vu que tu avais fait une école de beaux-arts et que tu as fait de la BD. Donc ce n'est pas comme si tu te lançais dans quelque chose de complètement nouveau, la création artistique.
Tu as entièrement raison, c'est pas totalement nouveau. Mais il y avait quand même ce souvenir de cette peinture que j'avais posée un jour sur un piédestal inaccessible pour moi. Et même si c'était pas nouveau, il y avait à enlever cette croyance que moi, Franck, je n'étais pas capable de pouvoir peindre parce que c'était. J'avais l'impression. Mais je crois que ce n'était pas tout à fait fini d'ailleurs, ce sentiment de ne pas pouvoir atteindre totalement ce que peut donner la peinture. En parlant là, je ressens encore un tout petit fond qui me dit oui, mais quand même, c'est la peinture. Bon, aujourd'hui, je m'éclate avec ce que je peins et c'est le plus important. C'est vrai qu'à chaque tableau, j'ai l'impression de naître à nouveau, et c'est ça qui m'apporte la jouissance. C'est comme si c'était la première fois que je peignais. J'adore ça.
Et en même temps, ça reste figuratif, c'est pas du tout une démarche abstraite dans ta peinture.
Oui, je suis pas du tout attiré par l'abstrait. Il y a des tableaux abstraits qui m'ont déjà apporté du plaisir. Mais généralement, les tableaux abstraits que je vois, j'en ai vu beaucoup, je voyais beaucoup le mal-être du peintre. C'est-à-dire qu'on jette ce qu'il y a à l'intérieur de nous, mais c'est comme si on le vomissait. Encore une fois, je ne parle pas de toutes les peintures abstraites. J'ai une amie qui fait de la peinture abstraite, qui d'ailleurs une fois m'a initié à la peinture abstraite. Et c'est très jouissif à faire. J'adore ça, c'est-à-dire faire une peinture abstraite, je peux en faire, mais pour moi c'est un exercice. C'est pas une finalité. Moi, ce que j'aime, c'est oui, c'est reconnaître un peu les objets qu'il y a.
Parce que oui, c'est tout récent que tu as commencé à peindre. Ça fait il y a combien de temps?
2013, et même fin 2013. Donc oui, ça fait 2 ans maintenant oui, que je peins.
Bon, on va passer à la deuxième partie.
Et on va de l'autre côté,
On va à l'autre
devant.
côté.
Et le chat.
Tu as vécu une expérience à l'âge de 29 ans qui a changé ta vie. Et j'aimerais que tu nous racontes cette expérience et en quoi elle t'a changé.
À l'époque, j'étais athée. Je crachais sur Jésus, je crachais sur Dieu. Il ne fallait pas me parler de religion, il ne fallait pas me parler de Dieu. Tout ça, il ne fallait pas m'en parler. Tout du moins, si on m'en parlait, en retour, celui qui m'en parlait ne recevait que mon dédain, que mon mépris. Voire je crachais dessus. Non pas sur la personne, mais sur ses croyances et ses idées. Et un soir, je vais me coucher comme tous les soirs. Et le matin, je me réveille. Et là, grand changement. Non pas que je croyais en Dieu, mais je savais au plus profond de moi, au plus profond de chacune de mes cellules, que la mort n'existait pas. C'était la fin de la mort. Et c'était totalement perturbant parce que c'était pas une conviction, c'était pas une croyance, c'était vivant en moi. Je n'avais pas eu de mort autour de moi, on n'en avait pas parlé. Il n'y avait rien du tout qui me devait m'amener à ce sujet-là, à la mort. Et là, tout d'un coup, la mort n'existe plus. C'était aussi vrai que le soleil existe, que je respire pour vivre, que j'ai 2 oreilles, un nez. Il y a pas de doute là-dessus.
En marchant dans une forêt qui n'a été ni domestiquée ni dérangée par l'homme, non seulement vous verrez une vie abondante tout autour de vous, mais vous rencontrerez aussi à chaque pas des arbres tombés, des troncs et des feuilles en train de pourrir et de la matière décomposée. Partout où vous regarderez, vous trouverez la vie aussi bien que la mort. En y regardant de plus près, toutefois, vous découvrirez que le tronc et les feuilles en décomposition non seulement donnent naissance à une nouvelle vie, mais sont eux-mêmes pleins de vie puisque des micro-organismes y travaillent, des molécules se réorganisent. La mort ne se trouve donc nulle part. Il n'y a que la métamorphose des formes de vie. Quelle leçon pouvez-vous en tirer? La mort n'est pas le contraire de la vie. La vie n'a pas de contraire. Le contraire de la mort est la naissance. La vie est éternelle. Eckhart Tolle. Tu avais peur de la mort avant ?
Non, à 29 ans, je ne pensais pas à la mort. J'avais aucune relation avec la mort. On en a tous, mais elle n'était pas consciemment présente dans ma vie. Alors, à partir de là, j'ai eu des questions. Et la notion de Dieu est venue. Oh là 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 là, cette notion de Dieu, comment je l'ai virée tout de suite. Non, mais je ne veux pas de toi. Oui, mais la mort n'existe pas. Oui, mais je m'en fous. C'est parce que la mort n'existe pas que Dieu existe. Tu vois, ça, pour moi, il y avait aucun rapport. Mais les questions venaient quand même. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir les scientifiques. C'est-à-dire, quand je dis je suis allé voir les scientifiques, j'ai acheté des livres d'astrophysiciens afin qu'ils puissent m'expliquer comment le monde a été créé, pourquoi, ceci, cela, etc. Donc, j'ai lu un livre extraordinaire qui s'appelle « La mélodie secrète ». D'un Américain qui s'appelle Tring Xuan Tuan, et il vulgarise justement toute l'astrophysique pour les plébéiens que nous sommes, et donc il part du tout début, de Ptolémée jusqu'à aujourd'hui, sauf qu'à la fin, sur la question 2, il fait « pas de réponse !» Et même, il dit « bon, bah, de toute façon, il y a peut-être un principe qui est un peu au-dessus de nous, qui quand même aurait peut-être créé ça, parce que, quels que soient les univers parallèles créés par des scientifiques, eh bien, tout se casse la gueule. Et il y a une image qu'il donnait dans son livre, qui m'est restée, il disait, comprenez bien que, pour pouvoir créer l'univers tel qu'il est, la Terre telle qu'elle est, et l'être humain tel que nous sommes, c'est comme si un archer prenait son arc, tendait sa flèche, lançait sa flèche et sur 15 milliards d'années-lumière atteignait la cible. C'est pas à l'échelle humaine, ça nous dépasse totalement. Puis à ce moment-là, tout le parcours pour aller vers Dieu a commencé. Ce parcours, il a commencé par aller voir des kabbalistes. Mais moi, je savais pas du tout ce que c'était que la kabbale. Hein. Et puis je suis resté 4 ans, je crois, sur les bancs de l'école. Ensuite, je sentais que ce qu'il m'apportait ne me faisait plus forcément avancer. Donc, j'ai quitté le centre de la Kabbale. J'ai rencontré des francs-maçons. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir en franc-maçonnerie. Mais alors ça, par contre, ça ne me parlait pas du tout. Mais bon, j'aimais bien les personnes que j'avais rencontrées. Je dis, peu importe. Et puis, ça m'a gonflé. Je savais que c'était une impasse pour moi. Et ensuite, j'ai fait la rencontre de personnes extraordinaires. Et ce sont ces personnes qui, petit à petit, m'ont apporté ce qu'elles étaient. Et je me suis rendu compte que la seule personne que je devais aller rencontrer, c'est moi-même. Thank you.
Et alors, est-ce que tu l'as rencontré, ce Franck Dumouya?
C'est-à-dire que ça, c'est une excellente question. Mais j'ai rencontré bien plus que ça. Voilà. Parce que je ne croyais être que Franck Dumouya. En fait, Franck Dumouya, je parle de moi à troisième personne. En fait, la personne que je suis est une partie, est une projection du divin. Mais tout chemin que j'ai fait depuis l'âge de 29 ans, aujourd'hui j'en ai 50, on va dire que ça fait une vingtaine d'années, c'est pour me rendre compte que de ne plus m'identifier à ce Franck, même si il y a une part de moi qui m'identifie à moi-même, et heureusement, mais de plus en plus, j'ai cette conscience que je suis dans ce courant de la vie, et comme disait le petit Père Jésus, que ta volonté soit faite. Et ce n'est plus que la volonté de Franck soit faite. C'est ça que j'ai appris en 20 ans. Mais c'est que ta volonté soit faite. Quand je dis ta volonté soit faite, certains vont appeler Dieu, d'autres vont appeler la vie, d'autres vont appeler ça l'âme, d'autres vont appeler ça la source, d'autres vont appeler ça l'être intérieur, la présence, peu importe ce qu'on appelle. On ne va pas l'enfermer dans un mot. C'est simplement sentir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui n'est pas à l'échelle du petit Franck. C'est comme s'il y avait un Franck fini, limité, et un Franck infini, illimité. Voilà. Et je goûte de plus en plus à ce Franck infini, illimité. Mais quand je dis ce Franck, c'est pas Franck en lui-même, c'est la vie. Peut-être qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus humble par rapport à la vie. C'est pour ça que j'y goûte de plus en plus.
C'est une sorte d'enseignement, finalement, de laisser ce processus de vie en soi circuler pour lâcher qui on est. Je me souviens justement que tu disais dans une des émissions que j'avais écoutées de toi, la Web TV de Jean-Claude Carton, « J'apprends à déconstruire qui je suis ». Mais cette déconstruction, elle amène vers quoi, finalement ?
En fait, ça, c'était une époque. Aujourd'hui, je ne dirais plus que j'apprends à déconstruire. Non. Tu vois ? Comme quoi, peut-être que dans un an, je dirai autre chose que ce que je suis en train de dire. Encore une fois, c'est simplement se laisser, voilà, aller dans ce mouvement de la vague qui nous emmène. Quand je dis « je ne me déconstruis plus », ça ne veut pas dire que je me construis.
Justement, quand on parle de déconstruction de soi, on parle de la personnalité qu'on croit à être et qu'on aurait construit tout au long de sa vie et à laquelle on s'identifie.
Voilà, mais en fait, je ne vais pas forcément la déconstruire, cette personnalité, mais je vais me désidentifier à elle. Parce que dans de ce que j'entends aujourd'hui du mot déconstruction, c'est quelque chose d'un peu violent. Hein ? Si je prends l'image d'un immeuble, on construit, puis après on va le à grands coups de boule comme ça avec... on va le déconstruire, on va le casser en deux. Mon but aujourd'hui n'est plus de déconstruire ce que je suis, mais d'arrêter de croire que je suis ça. Il me semble qu'il n'y a rien à changer à ce que je suis. C'est encore une autre étape. Tu vois, il y a l'étape où on croit qu'il faut s'auto-détruire, puis il y a l'autre étape où, où je suis plus dans... Ben, je m'accepte tel que je suis, dans le sens où je ne me juge plus. Je ne sais même pas si je suis clair.
Si, c'est juste pour... clarifier pour les auditeurs, se désidentifier à une personnalité qui a été construite au fur et à mesure de nos expériences de vie et qui constitue notre identité, mais finalement il y a bien plus grand que cette identité que nous croyons être.
Et oui, parce que lorsque nous arrivons sur cette terre, avec tout l'amour que nos parents peuvent avoir, et encore... Là, je parle dans le meilleur des cas, parce qu'il y a des enfants qui arrivent dans des familles où il n'y a pas d'amour. Mais prenons quand même le cas où la famille est pleine d'amour pour ce petit bébé. Mais malgré tout l'amour que papa et maman peuvent avoir pour l'enfant, ils vont lui transmettre ce qu'ils sont eux. Et puis l'enfant, il va grandir dans cet univers où papa ne s'aime pas forcément, où maman ne se trouve vide. Et puis à travers l'enfant, on va lui demander d'être ceci, d'être cela, c'est-à-dire d'aller à l'école. Puis aller à l'école, et ben, il faut avoir des bonnes notes parce que ça fait plaisir à papa, ça fait plaisir à maman. Donc l'enfant, il fait OK. Là, je vois bien que si je ramène une mauvaise note, parce qu'à la place de faire la dictée, moi, ce que je voulais, c'était regarder l'oiseau à travers la fenêtre s'envoler. Mais si je suis avec l'oiseau, l'instituteur n'est pas content, papa n'est pas content, maman n'est pas contente, etc. Donc, je vais m'efforcer à ne plus écouter ce que j'ai envie de vivre, à ne plus écouter ce que j'ai envie d'être. On va se construire une personnalité comme ça. Parce qu'on se rend compte que dans ce monde dans lequel nous vivons, ben, il n'y a pas autant d'amour que ça. Que dans ce monde, eh ben, il faut avoir des codes. Si on n'applique pas les codes, eh ben, on se fait mettre dans la marge. Et à un moment donné, on va s'identifier à ce personnage qu'on s'est créé. Et à ce moment-là, bon, c'est plus réellement qui nous sommes. Toi, c'est comme le saumon qui remonte la rivière. Il faut en avoir du courage pour se désidentifier à tout ça. C'est un cheminement de vie.
Alors, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui veulent se reconnecter à cette source?
Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est d'essayer, depuis le matin où vous êtes levé, jusqu'au moment où vous écoutez cette émission, de vous rappeler tous les petits gestes d'amour que vous vous êtes donnés. Vous allez vous rendre compte que vous vous levez, par exemple, vous allez tendre les bras, vous allez bailler. Ça vous fait du bien à votre corps. Premier geste d'amour. Ensuite, vous allez mettre des chaussons. Un exemple parmi tant d'autres. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie d'avoir froid aux pieds. Deuxième geste d'amour. Tous les gestes banaux que nous faisons à chaque instant, si on y mettait de la conscience, on verrait qu'en fait on s'envoie plein d'amour, et que si on y mettait notre présence, eh bien petit à petit, on se redécouvrirait. Et quand on est conscient de chaque petit geste de la vie, on va se dire, mais waouh, c'est extraordinaire de goûter le moment présent. On ne va plus forcément se projeter ni dans le passé ni dans le futur. Parce que j'ai qu'une envie, c'est de regoûter le café. Tous ces petits gestes cumulés font qu'on vit réellement le moment présent. Voilà, c'est un des conseils. C'est regoûter à ce mouvement de la vie. Thank you.
fait de ton changement, en quoi cela impacte et ça a impacté ta relation avec tout ce qui t'entoure, ou même avec les êtres?
C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a de la joie à vivre. Avant, il n'y avait pas de joie. Il y avait... j'étais pédant, j'étais hautain. Et je m'accrochais au fait d'être... je savais mieux que tout le monde. Comme ça, au moins, j'étais intéressant. Alors que c'était faux. Simplement, j'étais vide à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je dirais presque que je suis vide. C'est pas le même vide. C'est un vide rempli de vie. Et c'est un vide joyeux. Et vraiment, ce qui a changé, c'est la joie.
Donc tu le ressens dans ta relation aux autres, finalement. Parce qu'eux aussi sont plus joyeux, plus communicants.
J'en sais rien. J'ai pas la réponse à ça. Non, j'ai pas la réponse.
Alors moi, je peux témoigner, c'est que tu amènes de la joie, oui.
Ah oui,
oui, oui. Bon, chez les gens. Avec ton rire communicatif aussi.
Bah écoute, tant mieux alors. Vraiment, j'en suis joyeux.
Ouais. Et de quoi as-tu le plus peur?
Eh bien, encore une fois, de moi-même. Parce que je ne suis pas... Je parlais de désidentification. Je ne suis pas encore tout à fait désidentifié à ça. Je ne suis pas encore... complètement connecté à ce mouvement de la vie qui va me faire vivre des expériences. Où là, effectivement, je suis totalement comme si je n'étais plus moi-même. Alors, oui. Mais, je vais donner une expérience que j'ai vécue il y a quelques mois. J'étais assis là, sur le même canapé sur lequel nous sommes assis, Anne-Claire. C'était un soir et je ne sais plus ce que je faisais. Mais tout d'un coup, j'ai senti que je tombais d'une sorte de gouffre. Mais c'était un gouffre à l'intérieur de moi. Hein. C'est pas mon canapé qui s'ouvrait en deux. Non. C'était comme si je tombais dans un puits sans fin. Mais j'ai eu peur. Je me suis rendu compte que si je continuais dans cette chute, j'allais m'y perdre. Mais y perdre moi, Franck, avec son ego. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai crié. Et j'ai crié le prénom de ma compagne, qui n'était pas là. Hein. Et c'était comme un geste de sursaut qui a fait que l'expérience s'est arrêtée. Mais ça, c'était flippant comme tout. En fait, la vie me montrait, me disait, regarde, tu veux vraiment te désidentifier? Ok, je te propose. Mais j'ai eu tout à fait les chocottes d'accepter ce que me proposait la vie. Et quand je dis j'ai arrêté l'expérience, c'est peut-être la vie qui me dit, on arrête là parce que tu ne peux pas aller plus loin. Donc, qu'est-ce que aujourd'hui me fait le plus peur? C'est me désidentifier tout à fait à ce qu'on va appeler l'ego. Voilà.
Une question un peu en lien avec ce dont on parle, c'est quoi être humain pour toi?
Il me semble qu'il y avait une phrase qui disait qu'entre le singe et l'homme, il y a un maillon et c'est nous. Alors c'est pas cette phrase comme ça, mais ça veut dire que nous on n'est pas encore des êtres humains. Je pense que l'être humain, alors ça va peut-être être une image bisounours pour certains, mais c'est vrai, voilà, c'est un être d'amour. On vivra notre humanité pleinement quand on sera dans une période où nous serons dans l'amour de nous-mêmes et dans l'amour donc par conséquent de l'autre. Pour l'instant, j'ai l'impression que nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous sommes sur le chemin de notre humanité. J'ai cette conviction, je ne veux pas dire que je serai encore de ce monde-là, sur cette terre, mais que l'être humain un jour vivra... cette ère paradisiaque où on n'aura plus à tuer l'autre, on n'aura plus à marcher sur l'autre, on n'aura plus à se croire plus fort que l'autre, on n'aura plus à se croire séparé de l'autre, mais on saura que chaque être qui nous entoure est un frère et même plus que ça, est une projection de moi-même. Pour l'instant, on est On est une ébauche d'humain, tu vois. L'être humain tel que nous sommes est extraordinaire, mais c'est une étape pour aller vers ce que nous serons.
Des êtres divins ?
Humains. C'est-à-dire divin dans notre humanité, ou humain dans notre divinité. Mais ce que je pense, c'est que c'est le divin qui vient faire l'expérience de son humanité, et que pour l'instant, l'humanité a oublié qu'on venait de la divinité. Donc l'humain se croit seul et est responsable de tout, et, ce qui n'est pas le cas.
C'est curieux parce que moi, je n'ai pas la même conception. Pour moi, être humain, c'est être pleinement incarné, dans nos contradictions, dans nos expériences joyeuses ou malheureuses, et aussi peut-être pour nous différencier des autres êtres vivants sur la Terre. C'est ma conception.
Mais qui est tout à fait juste, puisque c'est la tienne. Maintenant, dans ce que... Voilà, je vais raconter une autre expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines. Encore une fois, j'étais assis sur ce canapé, comme quoi ce canapé peut-être que... Et c'était un soir, j'étais sur l'ordinateur, je ne sais plus ce que je faisais. Et là, arrive une tristesse, une sorte de mélancolie, il y a quelque chose qui me traverse. Et je ne comprends pas, parce que je pensais à rien, il n'y a pas un élément extérieur qui est venu me déclencher ça. Simplement, je ne pouvais que constater que cette tristesse était là. Je me dis, bon, je vais l'accueillir, et puis à un moment donné, elle va partir. Et puis, elle ne partait pas. Donc, je ne comprends pas. Je dis, ok, bon, je continue à l'observer. Et là, tout d'un coup, et là, c'est la première fois que je vivais ça, est arrivée une joie. Et ce qui était paradoxal, c'est que la tristesse était toujours là. C'est pas je vis la tristesse et que la tristesse m'englobe et m'entraîne là où elle a envie de m'entraîner. Non. La tristesse ne pouvait plus rien faire. Vivre son humanité dans ses contradictions, dans tout ce que tu viens de dire, avec toute la complexité de l'être humain, afin qu'il puisse se définir et se sentir autre que ceux qui l'entourent. Oui, mais à travers la source. L'émotion qui va venir nous étreindre, on peut toujours y mettre un filtre. Tu vois, la tristesse, je l'ai vue à travers la joie, je la vois à travers la beauté. Et donc, c'est rare que je sois triste, en fait. Parce que, dans ma vie, voilà, j'ai toujours mis des filtres entre la tristesse et moi.
Merci beaucoup, Franck.
Ben, merci à toi, Anne-Claire. Et je suis très heureux de notre rencontre et d'intégrer l'équipe.
Tu es le bienvenu, c'est avec plaisir aussi.
Merci, merci à toi Anne-Claire.
L'heure des sages. C'était un entretien avec Franck Dumouya pour l'émission L'heure des sages, réalisée par Anne-Claire Rebibaud. À très bientôt.
L'heure des sages.